manière, mais juste une petite, enfin une contradiction. Dans le texte du Coran, il précise que l'un des enfants de Noé, c'est le Coran 11, au verset 42 et 43, précise que l'un des enfants de Noé n'est pas entré dans l'arche, mais il a été donc emporté avec les mécréants. Or, le texte biblique nous dit que tous les enfants de Noé sont entrés dans l'arche et sauvés du déluge. L'histoire d'Abraham, au point que l'histoire d'Abraham soit considérée comme le père des religions monothéistes, comme le père de tous les croyants. Pour les musulmans, il est leur père grâce à Ismaël, parce que Ismaël, c'est pour eux l'enfant par lequel donc Abraham a donné la naissance avec la femme égyptienne, donc Agar, et c'est lui qui l'a voulu offrir en sacrifice. Et c'est cela que les musulmans, par exemple, célèbrent lors des fêtes de l'Aïd, ce qu'on appelle la fête du mouton ou bien du sacrifice. On l'appelle l'Aïd al-Adha ou encore l'Aïd al-Kbir. Et pour les juifs, par Abraham, il y avait la naissance d'Isaac, et d'Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël qui ont formé le peuple d'Israël. Donc, ils se réclament d'Abraham parce qu'ils descendent d'Isaac. Et puis pour les chrétiens qui considèrent Abraham comme leur père, pour des raisons de foi, c'est l'apôtre Paul qui a défendu cela dans ses épîtres dogmatiques. Lorsqu'il évoque Abraham, les vrais fils d'Abraham, ce sont les circoncis du cœur, ce sont ceux qui ont cru dans la descendance d'Abraham qui n'est autre que le Seigneur Jésus. C'est Galates 3, Romains 4. L'histoire de Moïse aussi est reprise dans le Coran. Elle est reprise en gros comme telle, elle est rapportée de la même manière, à part des quelques petites différences aussi. Pour le Coran, c'est la femme de Pharaon qui a adopté Moïse, mais pour la Bible, c'est plutôt la fille de Pharaon. Donc le Coran 28, verset 9, la Bible c'est Exode 2, verset 5. Enfin, la dernière histoire reprise par le Coran, et ce n'est pas la moindre, c'est celle de Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam. Il y a certaines différences, certes, entre les deux versions de l'histoire de Jésus, entre la version de la Bible et la version du Coran. Néanmoins, il y a énormément d'inspiration de l'histoire de Jésus telle qu'elle est rapportée dans les évangiles. Le Coran s'est inspiré beaucoup d'un évangile apocryphe qu'on appelle le pseudo-Matthieu, il continue quand même, il y a des ressemblances. Parmi ces ressemblances, on retrouve dans le Coran la conception miraculeuse de Jésus, par exemple. Pour le Coran, Jésus est un don de Dieu. C'est un signe de Dieu. Ici, le Coran appelle Jésus fils de Marie, Isa ibn Maryam. C'est aussi pour souligner, entre autres, qu'il n'est pas né suite à une relation entre un homme et une femme, suite à la relation entre son père et sa mère. Parce que dans la culture de l'époque, on nomme pas les personnes selon leur mère, mais selon leur père. D'ailleurs, Mohammed, il est appelé Mohammed ibn Abdullah. Donc, Mohammed, fils de serviteur d'Allah. Au passage, il faut souligner que Allah ne vient pas avec l'islam, dans la mesure où le père de Mohammed, déjà, s'appelait Abdullah, serviteur d'Allah. Donc, le terme Allah est employé déjà avant l'arrivée de l'islam par les chrétiens, pour évoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour évoquer le Dieu de Jésus-Christ. Donc ce terme, c'est pareil avec Elohim qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans les langues sémites. Les deux sont des termes, ce sont des pluriels de El, après ça donne Elohim, et donc c'est exactement l'équivalent en français de notre nom Dieu en français. Je signale cela parce que l'année dernière, j'ai cru voir dans les informations les autorités en Malaisie qui ont demandé aux chrétiens de ne plus employer le nom de Allah parce qu'ils seraient musulmans. C'est archi faux. Le nom d'Allah ne vient pas. Les chrétiens au 1er ou 2e siècle se servaient de son nom pour évoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Après, c'est ce qu'on met derrière le nom, c'est ça qui sera déterminant. Voilà. Donc, je reviens à la question de Mohammed. Donc, il est appelé fils de Abdullah, donc de serviteur d'Allah, et il, alors que Jésus, on l'a présenté sous le nom de sa mère, fils de Marie. Et cela, c'est pour souligner qu'il y a, que Jésus a une particularité, que Jésus n'est pas venu, donc n'a pas un père naturel physique. C'est pour dire qu'il n'y avait pas d'intervention, d'intervention humaine dans la conception de Jésus. Le Coran reconnaît aussi que Jésus est né pur. Le Coran 3, il le dit. Il est né sans péché. Le Coran 3 aussi, toujours le Coran 3, 36, 38, 41, hein, les versets 36, 38, 41. Le Coran dit clairement que Jésus a mené une vie pure, sainte, sans péché, sans commettre de péché, contrairement aux autres prophètes, y compris contrairement à Mohammed. Cela, on le retrouve aussi dans la Bible, dans l'Évangile. Jésus a dit aux Juifs, qui peut me convaincre de péché ? Il faut faire passer. Oui. Vas-y. Tu peux y aller jusqu'à l'histoire de Jésus, quelque chose comme ça. Ah oui, ça c'est les livres. Ouais, tu fais passer rapidement. Ouais, donc là, c'est... après il y aura des textes. Donc, je disais que cela ressemble aussi à ce que nous disons de Jésus, qu'il est fils de Dieu, qui n'a pas péché, pardon, pas fils de Dieu, mais qui n'a pas péché et qu'il est resté donc sans péché. Il est dit dans le Coran que Jésus est soutenu par le Saint-Esprit, ou bien par l'Esprit de sainteté, ça dépend comment on le traduit, mais on peut le traduire des deux manières, et que aussi Jésus n'a pas transgressé la loi divine. C'est le Coran 7, le verset 110. Quant aux divergences, il y en a, et elles ne sont pas des moindres, pour les divergences entre les deux versions de l'histoire de Jésus, on peut noter un point de divergence très important, c'est en fait la crucifixion et la résurrection de Jésus. On peut noter aussi le fait que Jésus soit fils de Dieu. Donc, la crucifixion et la résurrection de Jésus. D'après le Coran, Jésus n'est pas crucifié, car Dieu lui est venu en aide pour le délivrer des Juifs qui voulaient le crucifier. C'est le Coran 4, les versets 157 à 158. Le Coran n'est pas clair sur la manière dont Jésus a été crucifié, mais on voit, mais ils avancent, trois pistes, souvent qui reviennent dans la discussion avec les musulmans, notamment avec les théologiens. La première, c'est de dire que Dieu aurait livré un sosie de Jésus et qui a été crucifié par les Juifs, pensant que c'est le vrai Jésus, mais à vrai dire, ce n'était pas le vrai, d'après eux. La deuxième piste, c'est de dire que Dieu aurait donné une illusion générale à tous ceux qui voulaient crucifier Jésus. En fait, ils ont eu une illusion générale, ils n'ont pas finalement pris Jésus. Ils croyaient avoir crucifié Jésus, mais c'est juste une illusion commune, enfin communautaire, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est que Jésus n'est pas crucifié, ne serait pas crucifié. Et puis une dernière piste qui est avancée à ce sujet, c'est de dire que l'un de ses disciples a pris la place de Jésus. On pense régulièrement, on avance le nom de Pierre. En tout cas, pour le Coran, Jésus n'a pas été crucifié, mais il a été enlevé au ciel du milieu de ses disciples. Donc ça, c'est une différence majeure qu'il faut noter, parce que, comme je disais en introduction, notre foi est fondée sur cela aussi. Et une dernière divergence aussi sur le retour de Jésus, sur la fin des temps. Pour le Coran, Jésus reviendra à la fin des temps, bien sûr, au jour du jugement, avec le 12e imam, vous savez, qu'on appelle le Mahdi. L'imam attendu surtout par les chiites. Les chiites sont ceux qui sont à peu près en Iran, aussi au Liban, Iran, Irak, etc. Donc les chiites, c'est une autre frange des deux familles importantes de l'islam. Vous avez les sunnites, qui est une famille majoritaire dans le monde, et puis vous avez les chiites, mais qui n'est pas la moindre. Pour les chiites, donc, enfin, pour, pas simplement les chiites, cette fois-ci pour tous les musulmans, donc Jésus reviendra avec ce dernier imam qui est entré en occultation majeure en 932 à peu près. Donc, il disait qu'il va revenir et qu'ils vont juger ensemble. Or, pour la Bible, Jésus est le seul à revenir et le seul à juger toutes les nations. Ceux qui auront cru en lui seront sauvés, mais ceux qui n'auront pas cru en lui seront condamnés. C'est Jean 3, le passage que je lisais entre autres tout à l'heure, mais aussi Jean 5, les versets 24 à 25. Malgré ces différences, qui sont des différences de taille, il y a quand même une réelle inspiration de l'évangile dans le Coran, il y a une réelle reprise de l'histoire de Jésus dans le Coran. Au-delà de l'histoire de Jésus, c'est toutes les histoires, il me semble, que nous venons de voir, qui sont reprises dans la Bible, et de cette manière, le Coran se réclame implicitement de la Bible. Autrement, il n'aurait pas tant cité la Bible. Si il veut rejeter ou couper avec la Bible entièrement, il n'aurait pas fait autant appel aux sources bibliques. Tu es où ?
Tu continues ? Je vais juste vérifier.
Non, pas encore, Maintenant, je suis dans les thèmes, la reprise des thèmes. Ça, c'est, donc, en plus des histoires, le Coran reprend les thèmes qui sont évoqués dans la Bible. Si on examine, par exemple, les déclarations du Coran au sujet de Dieu, on se rend compte qu'il y a une reprise presque majoritaire de tous les attributs de Dieu évoqués dans la Bible. Je vous lis le Coran 59, je pense, c'est ça ? Oui, voilà, le Coran 59, vous l'avez depuis un moment. Donc, les versets 22 et 24, il dit « C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme le visible, c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est lui, Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout puissant, le très fort, le très grand, gloire à Allah. Il transcende ce qu'il lui associe. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, à lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux sur la terre, et le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. » Voilà. Sur la base de ce texte, on peut déjà souligner que Dieu est l'unique, omniscient, miséricordieux, souverain, saint, créateur, tout puissant, etc. Et tous ces attributs sont justifiés dans la Bible d'une manière très très fournie. Donc Dieu est aussi qualifié de ses attributs dans la Bible, et le Coran reprend ses attributs et il les associe à Dieu. La seule différence dans la conception, là aussi il faut souligner la différence dans la conception de Dieu entre la Bible et le Coran, c'est que la conception de Dieu dans la Bible la conception de l'unicité de Dieu dans la Bible est une unicité trinitaire, et la conception de l'unicité de Dieu dans le Coran est une unicité unitaire. C'est-à-dire, dans la Bible, Dieu un et trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le Coran, Dieu est un, mais il n'y a pas trois personnes. Donc c'est une unicité unitaire, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de relation, par exemple, au sein de la divinité, au sein de Dieu. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas... Après, ça pose d'autres problèmes, etc. Donc, à côté de ces noms divins, il y a aussi, on pourrait citer aussi les sujets éthiques sur lesquels le Coran suit exactement aussi la Bible, comme la moralité, la justice sociale, etc. Donc, le Coran se réclame de la Bible explicitement et implicitement en reprenant les mêmes histoires et les mêmes thèmes évoqués dans la Bible. Le deuxième point que je veux maintenant aborder, voilà, c'est le Coran fait éloge à la Bible. Ce sont les éloges importants que le Coran fait à la Bible, ils ne sont pas des moindres. Le premier éloge que le Coran fait à la Bible, c'est le fait que tout musulman qui se veut fidèle au Coran doit croire dans la Bible, le livre, Al-Kitab. Je lis Coran 4, où les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, s'égare loin de l'égarement. Il est question de kitab, de livre, dans ce passage. Mais sans expliciter à quoi renvoie le kitab ou bien le livre. Pourquoi penser qu'il renvoie forcément à la Torah ou au Nouveau Testament, à l'Évangile ? Lorsqu'on parle de la Torah, on parle de l'Ancien Testament dans son ensemble. Lorsqu'on parle de l'Évangile, parce qu'il l'emploie au singulier dans le Coran, et on parle du Nouveau Testament. En fait, rien ne le dit dans ce texte. Mais il faudrait noter qu'au début de son ministère, Mohammed ne fait pas la différence entre les deux communautés juives et chrétiennes. Il les a souvent considérés comme une seule communauté formant les gens du livre, On retrouve cette expression, les gens du livre, pour désigner juifs et chrétiens. C'est le Coran 3, le verset 67, le verset 98, 99, le Coran 5, le verset 68, etc. Et à la Mecque, avant les Hijr, donc la première partie du ministère de Mohammed, avant, c'est-à-dire 622, Mohammed a considéré que les écritures des chrétiens font suite aux écrits des juifs. Et c'est la raison pour laquelle il considère l'ensemble des écrits juifs et chrétiens comme un seul livre, le Kitab. El Kitab, en arabe, ce qu'on appelle El Kitab. Et pendant cette période, Mohammed voyait le Coran comme la continuité de la révélation biblique. C'est ce qui est proclamé dans le Coran 21, Surat Al-Anbiya, c'est-à-dire Surat les prophètes. Et il dit, certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Ils se sont divisés en sectes, mais tous retourneront à nous. Lorsqu'il dit, ils se sont divisés en sectes, il parle des juifs et des chrétiens qui se sont divisés donc en deux communauté, mais en fait, ils forment une seule communauté, et que l'islam vient donc comme une continuité de cette des messages proclamés et de cette communauté. Par la suite, le terme Kitab dans le ministère de Mohammed est employé dans le Coran pour qualifier d'une manière très claire les écrits révélés à Moïse et les écrits révélés à Jésus. Pour Moïse, la Torah est qualifiée du Coran, par le Coran, par le Kitab, c'est le Coran 23, le verset 49. Nous avions apporté le livre, le Kitab, à Moïse, afin qu'il se guide, pour le peuple, il en plusieurs, pluriel. Et puis le terme Torah, je vous disais qu'il est employé pour désigner l'ensemble de l'Ancien Testament et non pas seulement les cinq premiers livres de la Bible, c'est-à-dire le Pentateuque. Et pour l'Évangile, le Coran aussi qualifie l'Évangile du livre. Il qualifie l'Évangile du Kitab. Et c'est le Coran 19, le verset 30, mais Jésus étant bébé, c'est ça dans le Coran, dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre, le Kitab, il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. » Ici aussi, donc, le terme « évangile » au singulier renvoie à l'ensemble du Nouveau Testament, comme je le disais, et non pas seulement aux quatre premiers évangiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est employé en singulier et non pas en pluriel. Et là aussi, on voit le terme « Kitab » qui est employé pour évoquer l'Évangile, donc le Nouveau Testament. En conclusion, les écrits juifs et chrétiens qualifiés de Kitab, le livre, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont dignes de foi. Et le musulman qui veut respecter le Coran ne peut que croire dans ses écrits. Cela fait partie des cinq articles de la foi musulmane, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les cinq articles qu'il faut respecter. Donc, en plus d'être un livre digne de foi, la Bible est aussi considérée comme une source de confirmation et de vérification. D'abord, de confirmation, le Coran présente la Bible comme source de confirmation. Le Coran 4, il dit « Oh vous, à qui le livre a été donné, croyez à ce que nous avons révélé, confirmant ce que déjà vous possédiez. » Donc, le Coran vient pour confirmer ce que les juifs et les chrétiens possédaient déjà. S'il vient pour confirmer, c'est-à-dire le Coran sert aussi, donc de base, la Bible sert aussi de base pour le Coran. Nous avons là un appel très clair aux musulmans à croire à ce qui a été révélé déjà auparavant, c'est-à-dire la Bible. Et en plus, ce texte précise très clairement que le Coran confirme ce qui a été donc révélé par la Bible, et donc il ne dit pas le contraire. Il ne dit pas « prenez vos distances avec ce qui a été écrit sous prétexte que c'est transformé, c'est falsifié ou autre. » Le Coran va encore plus loin dans ce sens. Il donne un conseil à Mohammed lorsque celui-ci éprouve un doute sur l'origine divine d'une révélation. En d'autres termes, Mohammed reçoit une révélation selon le récit du Coran, ce que je vous raconte là, par l'ange Gabriel, et Mohammed avait des doutes sur cette parole, sur ce texte, est-ce qu'il vient de Dieu ou pas, et qu'est-ce qu'il reçoit comme texte coranique beaucoup plus clair et tout. Il reçoit le Coran 10, au verset 14, si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, le nous, hein, le nous honorifique, hein, c'est Dieu qui parle hein, dans le Coran. Voilà. Si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre, le Kitab, révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Dans ce verset, le livre, comme je vous disais tout à l'heure, joue un rôle de vérificateur et de confirmateur des révélations accordées à Mohammed. En d'autres termes, si une révélation accordée à Mohammed est conforme à ce qui a été révélé dans l'Ancien et le Nouveau Testament, donc c'est une révélation, Mohammed est invité à lui faire foi, à croire dans cette révélation, donc à l'accueillir, mais si elle ne l'est pas, si cette révélation n'est pas conforme aux écrits, l'Ancien et Nouveau Testament, Mohammed est invité à réfléchir avant de la considérer comme telle. Donc la Bible, selon le Coran, n'est pas seulement un livre digne de foi, mais aussi un livre de vérification et de confirmation. Et si on suit la logique de ces passages, comme je disais tout à l'heure, on peut relever donc le statut unique que le Coran accorde à la Bible. En d'autres termes, le Coran dépend entièrement de la Bible, son authenticité, l'authenticité de sa révélation, de son contenu dépend normalement de la Bible si on considère ces passages-là. Si on s'arrête là, je pense que c'est juste ce que j'ai dit, mais c'est pas complet. Vous allez me dire, mais dans ce cas-là, où est le problème? Pourquoi donc les musulmans ne croient pas à la Bible? Et pourquoi ils accusent la Bible d'être falsifiée? C'est mon dernier point. Donc si la Bible jouit d'un statut si particulier, si important dans le Coran, pourquoi les musulmans ne lisent pas la Bible? Et pire encore, pourquoi ils l'accusent de falsification? Et donc c'est mon dernier point. En fait, lorsque un musulman dit croire dans la Torah et l'Évangile, ne veut pas forcément dire qu'il croit ce qui est écrit dans les deux livres qui constituent la Bible. Car pour lui, le Coran étant le dernier livre révélé, récapitule et complète la révélation de Dieu. Et par conséquent, la révélation coranique est largement suffisante pour lui et a rendu caduques les révélations précédentes. Et de ce fait, il ne se sent pas obligé de lire la Bible. En plus, pour les musulmans, le vrai judaïsme, le vrai christianisme se trouve dans le Coran et non pas dans la Bible. Parce que d'après eux toujours, la Bible est falsifiée. Et cette affirmation leur permet de dire que la Bible est falsifiée, leur permet de faire taire deux objections que nous avons déjà soulignées. La première, leur permet de faire taire des contradictions, d'abord les contradictions, et puis certaines précisions, voilà. Certaines différences entre la Bible et le Coran. La première, ce sont les contradictions entre le Coran et la Bible, comme celles que j'ai évoquées tout au début, sur la crucifixion de Jésus par exemple, sur est-ce que c'est Isaac ou Ismaël que Abraham a voulu offrir en sacrifice. Donc, le fait de dire que l'Ancien Testament, de toute manière, est falsifié, la Bible est falsifiée, le fait de dire cela, donc ça permet de dire, mais c'est normal que vous ayez dans vos Bibles Isaac, parce que dans le Coran, c'est Ismaël, et c'est le Coran qui fait foi. La deuxième, ça leur permet, le fait de dire que la Bible est falsifiée, leur permet aussi de faire valoir certaines précisions apportées dans le Coran, mais qui ne se trouvent nulle part dans la Bible. C'est pour cela que pour le musulman, le contenu de la Bible ne fait pas autorité, bien qu'il la considère comme parole de Dieu, comme parole descendue de Dieu. Mais elle ne fait pas autorité. Et ils avancent deux arguments dans ce débat. Le premier argument pour dire que la Bible est falsifiée est un argument linguistique, et le deuxième est un argument théologique. L'argument linguistique, c'est le verbe falsifier. En arabe, on dit harafa, falsifier, corrompre. En français, il peut avoir aussi le sens de corrompre, hein, le verbe harafa. Et donc, dans ce verbe, lorsqu'on examine dans le Coran, il revient quatre fois dans le Coran, le verbe harafa, falsifier ou corrompre. Mais à chaque fois, ce n'est pas dans le sens que les musulmans ne le disent. on va lire les textes ensemble, comme ça vous verrez de vous-même. Le premier, c'est dans Coran 2, le verset 75. « Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. » Donc, « harafo », donc le verbe « harafo ». Il dit, qui est mis en cause ici? Ce n'est pas la Bible elle-même, ce n'est pas l'Ancien Testament comme tel. Mais ce qui est mis en cause, ce qui est mis en cause ici, c'est le fait qu'un groupe d'entre eux seulement, un groupe d'entre eux qui tordent. Et probablement ici, il y a une allusion, et c'est ce qui soutient par exemple le grand théologien musulman Razi, probablement à une secte juive en Arabie à l'époque de Mohammed, qui... Fort possible, il y a eu des sectes, hein, c'était plein de sectes aussi bien juives que chrétiennes, qui en effet prônaient certaines libertés sur beaucoup de choses, y compris sur la divinité du Christ, etc. Donc là, ce n'est pas tout à fait, dans ce texte du Coran, ce n'est pas tout à fait le texte biblique qui est remis en cause, ce n'est pas tout à fait l'Ancien Testament qui est remis en cause. Le deuxième texte, c'est Coran 4, verset 46, j'ai dit l'Ancien Testament parce qu'il est question des juifs hein, dans ce passage. Coran 4, verset 46, il dit... C'est la deuxième fois où le verbe « harafin » revient. « Il en est parmi les juifs qui détournent les mots et leur sens et disent « Nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre et favorise nous, Raina, tordant la langue et attaquant la religion. » Si au contraire il disait « Nous avons entendu et nous avons obéi, écoute et regarde-nous, ce serait meilleur pour eux et plus droit. » Mais Allah les maudit à cause de leur mécréance, leur foi est donc bien médiocre. Là encore, ce n'est pas, il est toujours question des juifs, ce n'est pas l'Ancien Testament qui est remis en cause ici, mais ce qui est remis en cause, ce n'est même pas un groupe qui torde le sang, qui écrivent ou qui prennent des libertés avec le texte de l'Ancien Testament, mais c'est juste une interprétation. Ils détournent le mot de leur sens. Ils donnent à des mots un autre sens que celui qu'ils avaient. Donc c'est une interprétation, une mauvaise interprétation. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un interpréterait, ça pourrait arriver à n'importe qui, interpréterait un texte biblique d'une manière qui ne respecte pas le contexte ou qui ne respecte pas la pensée de l'auteur biblique. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va traiter le Nouveau Testament ou la Bible de falsifier. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est trompé de son interprétation que la Bible elle-même est falsifiée. Donc là encore, la deuxième fois que le verbe falsifier est employé, je pense que ne correspond pas, ne justifie pas l'accusation portée par les musulmans contre la Bible. Le troisième texte, qui porte le verbe « harafa », falsifier Coran, près dans le Coran 5, verset 13. « Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurcis leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux, pardonne-leur donc et oublie leur faute, car Allah aime certes les bienfaisants. » Et ce texte encore, c'est comme le précédent, il est question de sens et non pas de texte objectivement parlant. Le quatrième et dernier texte qui porte sur ce verset, c'est dans le Coran 5, c'est les versets 44 à 45. « Nous avons fait descendre la Torah, » je pense qu'il y a une petite erreur là qui s'est glissée, « la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. » C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah ainsi que les rabbins, les docteurs jugent les affaires des juifs car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ne craignez pas donc les gens, mais craignez-moi. Ils ne vendaient pas mes enseignements à vil prix et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Il continue aussi verset 45, mais ce qui montre là aussi, en fait, ceux qui sont accusés, mis de doigt ici, sont les gens, les juifs ou les chrétiens, qui n'agissent pas selon l'enseignement de la Bible et selon l'enseignement de l'Ancien Testament et l'enseignement du Nouveau Testament. Donc, là encore, il n'est pas question, ce n'est pas une accusation directe contre le texte biblique lui-même. Donc, sur la base du verbe falsifier, harafa, il me semble que nous n'avons pas vraiment, l'argument n'est pas vraiment très très solide de dire, parce qu'à chaque fois les quatre occurrences de verbes falsifiés ne renvoient à aucun moment au texte biblique, à l'Ancien ou au Nouveau Testament, mais ils renvoient à des, soit à une secte, soit à une mauvaise interprétation du passage, etc. Le deuxième argument, qui est beaucoup plus solide, tu peux avancer, Jonathan, merci beaucoup. Donc là, c'est la suite, oui. Ouais. Tu peux avancer. Hein, donc le deuxième donc, argument, qui est beaucoup plus solide, c'est un argument théologique. Un argument théologique, c'est la prédiction de Mohammed dans la Bible. Et pour l'islam, les musulmans, Mohammed, la prédiction de Mohammed, c'est-à-dire que Mohammed allait venir, a été annoncée dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Les musulmans accusent aussi bien les juifs que les chrétiens de falsifier ces passages et d'enlever en particulier ces passages qui traitent de la venue de Mohammed. Lorsqu'on leur demande où dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la prédiction et les questions de la venue de Mohammed, et là, les musulmans, en tout cas les théologiens musulmans, avancent deux textes. Le premier, c'est donc le Coran. Non, avant d'avancer, deux textes, excusez-moi. D'abord, c'est le Coran qui le dit. Le Coran 61, il dit, au verset 7, il dit, « Quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dont la Torah est antérieure à moi, et annonciateur d'un messager à venir, un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed, puis quand celui-ci vint à eux avec des épreuves évidentes, ils diront, c'est là une magie manifeste. » Voilà ce que dit le Coran. Donc le Coran dit que Jésus avait annoncé aux chrétiens que Dieu allait envoyer un messager qu'on nommera Ahmed. Je vous expliquerai comment le passage d'Ahmed à Mohammed tout à l'heure. Donc, il sera appelé Ahmed. Il dit, mais lorsque on leur dira cela, lorsque Ahmed arrivera, le messager qui s'appellera Ahmed arrivera, les chrétiens vont dire, c'est une magie manifeste. Le deuxième texte, ceux qui suivent, c'est le Coran 7, ceux qui suivent le messager, le prophète illitré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Donc voilà. Il dit déjà dans les prophètes, donc le messager, celui, la prédiction du messager, qu'est-ce qu'il fera? Il fera toutes ces bonnes choses, ceux qui diront, suivez-le, donc ils seront au bénéfice de toutes ces bonnes choses qu'il apportera. Ils seront donc appelés les gagnants. Et comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on regarde l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on se demande où est les questions de Mohammed ou d'Ahmed dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et c'est là que des théologiens musulmans avancent deux textes, un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament. Pour le texte de l'Ancien Testament, c'est Isaïe 42, versets 1 à 9. C'est le premier texte que les musulmans annoncent comme il vient pour annoncer et qu'il annonce la venue de Mohammed. Dans ce passage, il est question du serviteur de Seigneur. Maintenant, il faudrait qu'on regarde ce qui est dit dans ce passage. Et lorsqu'on regarde Isaïe 42, il est question du serviteur de Seigneur. Il est question de serviteur de Seigneur, et ce serviteur de Seigneur pour les musulmans n'est autre que Mohammed. En effet, qui est ce serviteur de Seigneur? Il nous faut le comprendre. Pour répondre à cette question, il nous faut considérer le contexte immédiat du livre d'Isaïe, notamment tous ces passages. Et ensuite, on va regarder le détail des données qui sont dans le Isaïe 42 pour voir si elles correspondent à Mohammed ou pas. D'abord, le contexte général, les chapitres 41 à 57 du livre d'Ésaïe appartiennent, notre chapitre 42 appartient à un blog dans le livre d'Ésaïe qui va de chapitre 41 au chapitre 57 et qui est consacré aux serviteurs de Seigneur. Et dans le texte de Ésaïe 42, en fait, on a dans ce blog, on a quatre champ de serviteurs. Le premier champ de serviteurs, c'est Isaïe 42, auquel les musulmans font allusion. Qu'est-ce qu'il fait? Il annonce l'avènement de serviteurs de Seigneur, de bien-aimés de Seigneur. On a le deuxième champ de serviteurs, c'est Isaïe 49, où il aborde le serviteur de Seigneur avec ses partisans. Et le troisième champ de serviteur de Seigneur, c'est Isaïe 50, où il aborde le serviteur de Seigneur avec ses adversaires. Avant, c'est avec ses partisans, maintenant avec ses adversaires. Et le quatrième champ de serviteur, c'est à partir d'Isaïe 52 jusqu'à 53, il décrit l'œuvre expiatoire de serviteur de Seigneur. Donc, le contexte littéraire d'Isaïe 41 à 57 nous parle d'une personne, d'un serviteur de Seigneur qui accomplit bien des choses. Donc, c'est un ensemble. Ce n'est pas simplement un serviteur du Seigneur qui se limiterait à quelque chose dans le chapitre 42, mais il y a aussi le chapitre 49, 50, donc le deuxième, troisième et le quatrième. Et tous ces quatre champs de serviteurs, lorsqu'on regarde le Nouveau Testament, ils se sont accomplis d'une manière admirable sur Jésus. Donc, ces chapitres, par exemple, l'œuvre expiatoire, l'œuvre de Christ à la croix, c'est très difficile de nier, lorsqu'on lit Isaïe 53, de nier, de dire que ça n'appartient pas, de dire que ça ne renvoie pas à l'œuvre de Jésus telle qu'elle est décrite dans les évangiles, Jésus sur la croix. Et je disais que tous ces passages renvoient, tous ces chapitres de Seigneur, mais on n'a pas le temps, renvoient à Jésus. Maintenant, on revient sur le passage qui a été souligné par les musulmans, donc le chapitre 42. Pardon. Voici le premier verset du chapitre 42. « Voici mon serviteur, donc je cite le prophète Isaïe, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Ce passage est repris comme tel lors et appliqué à Jésus lorsque Jésus s'est fait baptiser. À sa sortie du baptême, des eaux de baptême, une voix s'est fait entendre du ciel qui dit exactement, elle reprend exactement la même expression, « Celui-ci est mon fils, au lieu de mon serviteur, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc c'est une citation d'Isaïe 42. Et ça, c'est Dieu le Père qui cite ce passage, une manière de dire que le serviteur de Seigneur annoncé en Isaïe 42 n'est autre que celui-ci, celui que tous ces gens-là avec Jean-Baptiste autour de lui est en train de voir se faire baptiser. Donc c'est Matthieu 3, le verset 17. Il me semble, on n'a pas le temps, mais il me semble si on va dans le détail examiner, même l'expression « celui-ci est mon fils et mon serviteur », le passage de mon fils à mon serviteur, se justifie parfaitement. Et je crois vraiment, si on veut rester honnête intellectuellement, le passage d'Isaïe 42, ainsi que les autres chants de serviteurs de Seigneur, renvoient parfaitement et de manière harmonieuse à Jésus qui les accomplit parfaitement. Or, je ne vois personnellement, et je le fais vraiment avec beaucoup d'honnêteté lorsque j'examine ce genre de choses, je ne vois pas du tout d'allusion à Mohammed et en quoi ces passages, cette déclaration s'est accomplie au Mohammed. Le deuxième texte que les musulmans avancent pour dire que la Bible est falsifiée, et là, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans le discours de Jésus, le dernier discours de Jésus, dans l'Évangile de Jean, les chapitres 14 à 16. Et dans ces chapitres, Jésus promet à plusieurs reprises d'envoyer le Paraclétos. Je lis au verset 16, « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre, qu'on traduit souvent par consolateur, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » On a souvent, comme je disais, traduit Paraclétos par consolateur dans les traductions du Nouveau Testament, les traductions françaises. Probablement, c'est sous l'influence de Jean Calvin qui a donné cette interprétation initialement, qu'il a soutenu, mais maintenant il me semble que beaucoup s'accordent pour dire le sens peut-être d'avocat, défenseur, intercesseur correspond davantage qu'au terme consolateur. Ceci dit, Dieu aussi continue à nous consoler, comme je l'ai dit ce matin, donc ça n'enlève en rien à ce rôle de consolateur que Dieu a à notre égard. Donc, il est question ici d'un avocat. Qui est ce Paraclétos? Qui est ce défenseur? Qui est cet avocat? Là encore, il faut qu'on regarde l'évangile de Jean, qu'on regarde le contexte, et après on regardera le détail. Dans le contexte littéraire de l'évangile de Jean, la traduction de Paraclétos par avocat, il me semble, voilà, comme je disais, convient mieux, et qui est ce Paraclétos. Pour les musulmans, ah voilà, d'abord avant de dire la raison, il faut d'abord que je vous dise comment les musulmans le lisent, avant de vous dire comment je pense le comprendre. Pour les musulmans, en fait, Jésus n'a pas parlé de Paraclétos. Donc, pour les musulmans, Jésus n'a pas parlé de Paraclétos, mais il a parlé de Périklestos. Périklestos veut dire le célébré, en grec, veut dire le très illustre, le célébré, etc. Et je vous disais, dans le Coran, qu'est-ce qu'il est question ? Il est question de Ahmed. Ahmed, en arabe, veut dire le célébré, celui qu'on célèbre, le loué, l'illustre. Et donc, les musulmans disent, voilà, il était question de Périklestos, et vous avez changé en Paraclétos. Maintenant, il faut regarder, là encore, on regarde le texte de Jean pour examiner les choses. D'abord, le contexte immédiat dans lequel Jésus dit cette déclaration. Jésus, il identifie très clairement le Paraclétos au Saint-Esprit, parce que au verset 14, donc au verset 16, pardon, du chapitre 14, donc quelques versets, il identifie le Paraclétos au Saint-Esprit. Il dit l'Esprit de vérité. Et au verset 17, il dit le Saint-Esprit. Et au verset 26, du même chapitre aussi, il évoque le Saint-Esprit. Verset 17, verset 26. Esprit de vérité, esprit et l'Esprit Saint. Donc, le contexte immédiat fait très clairement allusion au Saint-Esprit qu'il allait venir. Il s'agit bien du Saint-Esprit dont parle Jésus, qu'il allait envoyer sur ses disciples. Ensuite, le contexte le plus élargi du livre de Jean. Qu'est-ce qu'on découvre ? Dans le livre de Jean, d'abord dans le livre des Actes des Apôtres, on voit la venue du Saint-Esprit d'une manière publique sur les disciples. Mais à la Pentecôte, donc 50 jours après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit descend devant tout le monde, publiquement, sur les disciples. Et là, on voit la réalisation de cette promesse faite aux disciples dans un contexte privé. Même avant la réalisation de cette promesse dans le livre des Actes des Apôtres, déjà à la fin du livre de Jean, au chapitre 20, Jésus va souffler l'Esprit sur ses disciples. Il leur dit « Recevez l'Esprit de Dieu, ceux à qui vous remettrez leurs péchés seront effectivement tenus quittes et ceux à qui vous retiendrez resteront chargés. » Donc c'est Jean, chapitre 20, versets 22 à 23. Donc déjà à la fin de Jean, cette promesse de l'Esprit de Dieu qui viendra s'est réalisée, mais dans le contexte un peu intime entre Jésus et ses disciples. Et cette promesse va se réaliser d'une manière publique et devant tout le monde à la Pentecôte, où des Juifs venant de tout le bassin méditerranéen viennent constater cette venue admirable, exceptionnelle, de l'Esprit de Dieu, de Paraclétos, promis par Jésus sur les disciples. Donc, ici encore, aussi bien le contexte général de l'Évangile de Jean, des Actes des Apôtres qui nous rapportent la première vie des premiers disciples, aussi bien le contexte donc général que immédiat confirme bien que le Paraclétos n'est autre que le Saint-Esprit. Et donc, je crois, ce n'est pas juste de dire que le Paraclétos dont il est question ici renvoie à Mohammed. Ça, c'est une réponse, il me semble, biblique, honnête, enfin, à mon sens, hein, j'espère, hein, du moins. Maintenant, il y a un autre problème de raisonnement. Si on dit, mais il ne faut pas commencer l'argumentation par cela, si on dit que le Paraclétos, c'est Mohammed qu'il allait venir, donc les musulmans admettent que ce Paraclétos est envoyé par Jésus. Parce que c'est dans ce discours, Jésus dit « je vous enverrai ». Il dit « mon père », mais après il reprend en disant « moi, je vous enverrai ». Dans ce cas-là, Mohammed serait envoyé par Jésus. Or, on sait que Dieu seul envoie les prophètes. Et si donc le Paraclétos c'est Mohammed, s'il est envoyé par Jésus, Donc Jésus devait être plus qu'un prophète. Il y a une difficulté réelle de raisonnement. Si on dit que c'est Jésus parle de Paraclétos, donc il faut respecter ce que Jésus dit. D'accord, il dit que je l'envoie. Si on dit que c'est Mohammed, donc Mohammed est envoyé par Jésus. Et si Mohammed est envoyé par Jésus, dans ce cas-là, Jésus, certes, on peut accepter que Mohammed soit un prophète, mais Jésus, donc, l'est plus. Puisqu'on sait que seul Dieu envoie les prophètes, seul Dieu, donc, voilà, les prophètes de la part de Dieu, qui sont porte-parole de Dieu. Pour conclure, il me semble, sur ce point, il y a certes deux textes dans le Coran qui affirment que Mohammed a été prédit dans l'Ancien Testament, les textes que je vous ai lus, l'Ancien et le Nouveau Testament, les textes que je vous ai lus, mais il me semble, à l'examen de ces textes en question, Isaïe 42 et Jean 16, il est très difficile, à mon sens, de justifier cela, de confirmer cette soi-disant prédiction. Le premier texte d'Isaïe 42 s'applique à Jésus, le deuxième texte s'applique au Saint-Esprit. Au-delà de cette accusation de falsification de la Bible, le Coran, me semble, se réclame quand même de la Bible et il lui fit même des éloges, comme je vous l'ai dit, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il faudrait donc simplement ne pas hésiter, à mon sens, d'encourager nos amis musulmans, nos voisins, leur offrir un Nouveau Testament, un évangile, les encourager à le lire, pour qu'ils découvrent eux-mêmes, pour qu'eux-mêmes fassent des vérifications, pour qu'eux-mêmes examinent les textes et que par là même, par cette démarche, ils soient éclairés, ils parviennent à la connaissance de la vérité. J'aimerais aussi encourager les chrétiens, puisque je laisse un dernier encouragement pour les musulmans, j'aimerais laisser aussi un encouragement pour les chrétiens dont nous sommes pour la plupart ici. J'aimerais vous encourager à lire, si vous avez le temps, enfin à prendre du temps à lire le Coran, pour que vous ne tombiez pas dans des caricatures souvent employées, pour ne pas tomber dans des choses pas tout à fait vraies, injustes, et par souci d'honnêteté, par souci de justice, pour adapter, même pour mieux adapter notre réponse, pour mieux répondre aux questions et aux interrogations de nos voisins et de nos amis musulmans. Voilà, je vous remercie pour votre attention et pour votre courage de rester malgré le froid. Et je suis maintenant à votre écoute. Si vous avez des questions ou des clarifications, je suis à votre écoute. Oui, Koudjo.